Bonjour et bienvenue dans l'entrepreneuriat c'est du sport, le premier podcast qui mêle sport et entrepreneuriat. Je m'appelle Eric Allard et avec mes invités, nous allons parler des liens qui existent entre ces deux mondes. Car entreprendre, c'est au sens large du terme, vouloir mener à bien un projet, que ce soit dans le sport ou dans le business. En parlant de sport, je ferai le parallèle avec ce que vivent au quotidien mes invités, qu'ils soient dirigeants, managers ou entrepreneurs. Nous évoquerons les valeurs communes à ces deux univers, comme par exemple l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la résilience ou encore la vision à long terme nécessaire à l'accomplissement des objectifs et à l'entretien de la motivation. Et les expériences partagées par mes invités vous aideront sûrement dans l'atteinte de vos propres projets. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». Aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn, de community management et un petit peu d'apéro. Mon invité, Antoine Périgne. Bonjour Antoine.
Mais bonjour, quelle belle intro.
T'as vu ça? J'ai préparé parce que ça fait longtemps que je te suis, comme je le disais en introduction, parce que tu es le papa de Perfect Post, qui est une extension pour LinkedIn, qui permet de mieux rédiger ses posts. Tu es également le fondateur de la Social Media Family, une entreprise, une agence qui fait du community management, du social ads, des formations, du ghostwriting. Et tu as également, un peu à la marge, je parlais des apéros, créé le concept d'apéro CM, apéro community manager. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns à Nantes. C'est toujours très sympa de parler de ce concept. Voilà, j'ai un peu dit qui tu étais. Tu vas peut-être pouvoir aller un peu plus dans le détail. Alors, d'où vient cette passion pour le marketing, pour LinkedIn, pour le community management? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à faire tout ça aujourd'hui?
Ouais, bien sûr. Bah, j'ai toujours été intéressé, moi, par le marketing, déjà. À la base, je voulais faire plutôt publicitaire. Et parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas encore aussi gros que maintenant. Donc, j'ai voulu faire de la pub. Et puis après, j'ai vu le film 99 francs. Je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Jean Dujardin. Et j'ai remarqué que c'était vraiment beaucoup de la drogue et des trucs comme ça. Et c'est pas trop, trop mon délire. Donc, ça m'a un petit peu réorienté, on va dire. Et après, dans mes études, j'ai fait des études de marketing des nouvelles technologies, une licence professionnelle. Et j'ai vachement sympathisé avec un de mes profs, qui est aujourd'hui un pote d'ailleurs. Et c'était le prof de community management justement. Donc il m'a montré ce que c'était que Facebook. À l'époque, il n'y avait que Facebook et un peu Insta. Et j'ai trouvé ça assez cool de me dire, attends, on peut être payé pour aller sur un Facebook et puis s'amuser. Donc voilà, j'ai découvert ça après pendant un stage. Donc j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle Cuisine Addict, qui était un site d'ustensiles de cuisine, un site d'e-commerce. J'ai trouvé cette expérience trop trop cool, les résultats étaient hyper bons. Et à la fin de mon stage, le patron m'a dit, bah, si tu veux continuer avec nous, je peux pas te salarier, mais de toute façon c'était à Montargis, donc je ne voulais pas être salarié. Mais si tu te mets à ton compte, bah, je pourrais être ton premier client. Et donc je me suis mis à mon compte grâce à ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est pas vraiment une volonté, quoi. C'est plutôt une opportunité que j'ai saisie. Et après c'est concrétisé en plein de trucs plus cool.
T'avais quand même un petit peu cette fibre entrepreneuriale ou c'est juste vraiment l'occasion qui a fait que tu t'es dit, bah, tiens, je me lance. Puis même avant d'avoir ma boîte, j'ai déjà un client, donc c'est top.
C'est purement l'occasion. J'ai pas un attrait particulier pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'aime pas être chef d'entreprise. C'est pour ça que dans mes deux boîtes, j'ai soit un associé, soit quelqu'un qui a le rôle de CEO. Parce que j'aime pas gérer des boîtes. J'aime bien lancer les projets, j'aime bien être libre. Donc pour ça, j'adore l'entrepreneuriat. Mais non, je pense pas que ce soit mieux que salarié, par exemple.
Et des projets, donc on en parle, tu en lances. Donc tu as la Social Media Family, qui est ton agence. Tu as aussi Perfect Post, qui est donc une extension qu'on met sur notre navigateur et qui permet donc d'aider à la rédaction de posts sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Perfect Post, à la fois sur la genèse de cette extension et également qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte à ceux qui se servent de ce réseau professionnel?
Oui, bien sûr. Perfect Post, c'est né d'un truc tout con. C'est que je pense que si tu es sur LinkedIn aussi, tu sais qu'il manque des fonctionnalités. On trouve qu'il y a des trucs qui ne sont pas pratiques. Et notamment, moi, ce qui me gênait, ce qui gênait d'autres personnes, c'était le voir plus. À l'époque, on savait jamais vraiment où il arrivait, et c'était compliqué de faire des accroches qui tombaient parfaitement. Et donc, c'est mon associé sur Perfect Post, Jérôme, qui a vu un carrousel, je crois, d'un créateur, qui disait, vous voulez savoir où tombe le voir plus, voilà exactement où il tombe. Il avait calculé le nombre de caractères à partir duquel le voir plus apparaissait. Donc, il disait, voilà, si vous êtes sur une photo, ça fait tant de caractères, carrousel, tant de caractères, etc., etc. Et mon associé, qui est dev, m'a dit, bah, attends, c'est un enfer, hein. je vais faire une extension, qui, dès qu'on ouvre LinkedIn, mettra une petite ligne quand le voir plus apparaîtra. Et donc Perfect Post, ça a commencé juste avec ça. Il l'a mis en ligne, je crois qu'il a récupéré directement 300 ou 400 abonnés, enfin 300 ou 400 personnes qui ont téléchargé l'extension. Il s'est dit « Waouh, c'est un peu marrant ». Et moi, vu que c'était un très bon pote, je lui ai dit « Mec, moi, je me renseigne beaucoup sur l'algorithme, parce qu'à ce moment-là, j'étudiais beaucoup l'algorithme de LinkedIn pour le boulot, et je voulais absolument savoir quelle était la durée de vie d'une publication LinkedIn ». Donc, ce que je faisais, c'est dès que je faisais une publication, je faisais un relevé de nombre de vues, de likes et de commentaires toutes les 10 minutes. Et comme ça, j'étais capable de savoir s'il y avait un pic au démarrage, s'il arrivait après, etc. Je regardais aussi, par exemple, si quelqu'un avait un gros compte commenté ma publication, est-ce que ça faisait un deuxième pic? Tu vois, j'observais ce genre de résultat-là. Et je lui dis, mais attends, mais avec ton truc, il n'y a pas moyen que tu le fasses automatiquement pour moi, que tu relèves les chiffres pour moi, comme ça, j'ai pas besoin de mettre mon Excel et toutes les 10 minutes. Il m'a dit, si, viens, on le fait. Donc, il l'a ajouté. J'ai communiqué directement sur mon profil LinkedIn en disant, c'est gratuit, c'est un pote qui l'a fait, essayez-le. Je crois qu'il a eu directement 2000 ou 2500 téléchargements. Et il s'est dit, et tout le monde s'est regardé, on s'est dit, attends, peut-être que c'est pas juste une blague, peut-être que c'est pas juste un truc comme ça, peut-être qu'on peut en faire une vraie boîte. Et donc on s'est posé et on s'est dit, écoute, on se laisse un an, si dans un an on a 10 000 utilisateurs et qu'on continue à faire vivre cet outil, on en fait un vrai projet entrepreneurial. On les a atteints beaucoup plus vite qu'en un an, du coup on s'est dit bah go. Donc on a créé la société Perfect Post, on a commencé à réfléchir à un modèle économique, donc payant, etc. Et c'est ça qu'on développe là depuis un an et demi, je crois, à peu près. Et aujourd'hui, Perfect Post, c'est 26 000 utilisateurs de la version gratuite, dont toi, donc merci à toi, et à peu près 500 utilisateurs de la version payante, qui permet plein d'autres choses. Est-ce que tu veux qu'on rentre dans le détail de ce que c'est que cette extension ?
Oui, on peut aller un peu sur le détail, mais comme tu le dis, moi, je suis un des... Dès le départ, je crois que je suis dans les premiers à avoir testé Perfect Post, puisque tu nous demandais c'est quoi vos retours, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez des bugs et tout ça, et j'ai participé à ça. Je me souviens des premières fois. Je suis sur la version gratuite qui marche déjà très très bien, je suis pas encore sur la version payante, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement que font ces deux versions, qu'apporte la version payante? Je pense que c'est plus de statistiques, tout ça. Je sais que maintenant, aujourd'hui, quand j'ouvre mon LinkedIn avec Perfect Post qui est là, on a des conseils, on voit combien de posts on a commenté, combien de likes. Quand on écrit son post, ça nous dit, vous devriez faire ça, ça, vous avez des conseils pour pouvoir mieux écrire, etc. Donc, on peut aller un petit peu dans le détail, ouais, pour ceux qui nous écoutent.
Oui, bien sûr. Le principe de Perfect Post, nous, on n'est pas comme les outils qui rédigent les posts pour toi. Il faut bien se dire qu'on est un outil complètement différent. On ne s'adresse pas aux professionnels de LinkedIn, on s'adresse aux débutants des réseaux sociaux et de LinkedIn en particulier. C'est ça notre but. On veut faire en sorte que quelqu'un qui ne publie pas sur ce réseau, qui n'est pas actif, devienne actif grâce à cet outil. Donc, le but, c'est qu'on facilite tout ça. Donc, moi, j'ai rédigé, par exemple, une centaine de conseils très spécifiques, très techniques. Par exemple, une des questions qui revient très souvent dans le chat de Perfect Post, dans mes posts, c'est comment on met des emojis? C'est-à-dire comment on ouvre le truc avec tous les emojis. Donc un conseil, c'est vous êtes sur Mac, voilà comment ouvrir les emojis, vous êtes sur Windows, voilà comment ouvrir les emojis. Tu vois, on est sur ce niveau de conseil-là. Il y en a plein sur l'algorithme, sur comment ajouter un lien sur sa publication, est-ce que je peux modifier, etc. etc. J'ai une centaine de conseils comme ça qui tournent et qui arrivent une fois par jour. Et en plus de ça, on s'est dit qu'est-ce qui saoule les gens au fur et à mesure et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans Perfect Post. Donc par exemple, si on prend mes fonctionnalités préférées de l'outil, parce qu'il y en a une myriade, ma fonctionnalité préférée, ce sont les fils d'actu personnalisés. Donc ça, c'est un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur LinkedIn, tu vois à peu près tout le temps les mêmes personnes dans ton fil d'actualité. Et moi, je les connais bien, mais ce n'est pas mes clients. Ce n'est pas forcément ceux que j'ai envie de voir ou que je devrais commenter pour mon business. Donc ce qu'on a fait avec Jérôme, c'est qu'on a développé des fils d'actualité dans lesquels tu détermines exactement les personnes qui vont apparaître. Donc j'ai mon fil d'actu normal, et sur le côté, j'ai mon fil d'actu avec tous mes prospects, avec tous mes clients, avec toutes les personnes qu'on ghostwrite, avec tous les membres de l'équipe, etc., etc. Comme ça, juste aller voir chacun de ces fils d'actu, et dans ces fils d'actu, je n'ai que les contenus des gens qui m'intéressent. Et ça me sert énormément. En ce moment, j'aimerais bien bosser, moi, avec des zoos et des choses autour des animaux. Donc je me suis fait un fil d'actu avec tous les zoos de France, toutes les personnes qui bossent dans le domaine animal, et je vais aller liker, commenter régulièrement pour me faire un peu connaître de ce domaine-là, tu vois. Donc ça, c'est ma fonctionnalité actuellement préférée.
D'accord. Et ça, c'est dans la version gratuite?
C'est ça. En version gratuite, tu as un fil d'actu personnalisé. Je crois qu'on est limité à 28 personnes ou pages dans ce fil d'actu. C'est LinkedIn qui bloque ça. Et dans la version payante, tu en as autant que tu veux. C'est pour ça que j'ai prospect zoo, prospect B2B. Enfin, tu as plein de comme ça de lignes que tu peux ajouter. En autre fonctionnalité, on a la possibilité d'enrichir ton texte. Donc, par exemple, on peut mettre du gras, de l'italique et du souligné. Comme ça, quand tu écris, ça permet de rajouter ces éléments-là. Dans cet enrichisseur de texte, on peut aussi indiquer où est-ce qu'apparaît le voir plus, comme ça tu sais exactement où va tomber le voir plus. C'était la toute première fonctionnalité de Perfect Post. On a un compteur de mots, compteur de caractères, on a un compteur d'emoji, compteur de hashtag. Et sur les côtés, effectivement, tu vas avoir des conseils. Alors ça, c'est plutôt dans la version payante, mais dans la version payante, pareil, j'ai rédigé des conseils, on est capable de voir ce que tu fais sur ton post. Et donc, il y a des conseils qui vont apparaître en disant, attention, t'as mis beaucoup de hashtags, ou ta phrase, elle est un peu trop longue, essaye de la réduire. Toi, c'est des conseils de copywriting, on va dire, LinkedIn. Pour l'instant, il n'y a pas d'IA à cet endroit-là. On regarde comment l'ajouter parce qu'on n'a pas envie de faire un truc qui te permet de rédiger des posts. On ne pense pas que ce soit la bonne direction à prendre. Et l'autre fonctionnalité que je préfère sur Perfect Post, qui est toujours dans l'extension aussi, c'est que tu peux enregistrer tes brouillons. Dès que tu commences à poster dans LinkedIn, ça le sauvegarde sur le côté, tu peux le retrouver à n'importe quel moment. Parce que moi, j'étais trop frustré par ça, où tu commences à écrire, il n'y a rien pour sauvegarder, c'est supprimé, enfin, c'est chiant. Et du coup, je me suis dit, il faut que je puisse les avoir sur mon côté, sans aller sur Trello, sans aller sur Notion, d'ailleurs, je vais les avoir dans LinkedIn. Et donc, on l'a développé pour ça.
Avant d'avoir Perfect Post, moi, j'écrivais même mes brouillons sur un éditeur de texte pour être certain que si à un moment il y avait quelque chose qui se passait, je ne perde pas mon texte. Et après, je faisais un copier-coller dans LinkedIn. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'extension, il y a un brouillon automatique et ça change la vie.
Exactement, bah, pareil que toi. Et en plus, dans les brouillons, tu peux ajouter directement ton PDF, tu peux ajouter tes photos, tes vidéos, enfin, tout est intégré. Et j'avoue que moi, pareil, c'est le gros truc avec Jérôme. On s'est dit, OK, là, on a quelque chose de cool. Parce qu'au début, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait aussi ajouté dans Perfect Post la possibilité de programmer ses publications. Et puis, 6 mois plus tard, LinkedIn l'a sorti. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça sert à rien de développer ça. On s'est appuyé sur la solution de LinkedIn. Et nous, on a juste rajouté la possibilité de programmer des sondages, ce que ne peut pas faire LinkedIn. Et je crois que c'est les carousels, non, qu'on ne peut pas programmer aussi. Il me semble que c'est ça. Donc, on a rajouté la possibilité de programmer des sondages et des carousels. Tu vois, en gros, notre truc, c'est qu'on regarde ce qui manque et on essaie de l'ajouter ou de rendre le truc plus simple.
Est-ce qu'il y a des choses que tu penses... Vous avez ajouté avant LinkedIn et que du coup, tu parlais par exemple la possibilité de programmer. Tu penses que LinkedIn, alors que ce soit pour vous Perfect Post ou d'autres extensions, ils se disent, bah, tiens, finalement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, on va l'ajouter nous-mêmes directement en natif dans LinkedIn.
Je pense à programmation, ouais, ils veulent faire du tort à des outils comme AgoraPulse, etc., qui sont des outils de gestion de social media. Et ils ont fait ça avec les statistiques. Les statistiques, il y a un outil, le nôtre, on a aussi une grosse partie statistique, il y a Shield aussi, qui est un outil qui permet de faire ça, parce que LinkedIn ne donnait aucune info sur les stats, c'était très chiant sur ce point-là. Ils sont vachement améliorés, donc maintenant on a un peu plus de stats. Donc ouais, je pense qu'ils regardent un peu ce qui se fait, mais je pense qu'ils s'en foutent en grande partie, parce que maintenant que l'IA est sortie, LinkedIn appartient à Microsoft, OpenAI appartient en partie à Microsoft, donc ils sont en train de mettre de l'IA partout, donc c'est plutôt ça l'axe là qu'ils sont en train de prendre.
À côté de ça, Social Media Family, une agence de com, de community management, social ads, que tu as créée il y a un peu plus de 7 ans. Vous êtes combien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites exactement? Comment ça se passe sur le développement de SMF, comme tu dis?
Eh bien, la SMF se porte bien, on est 8 maintenant. Donc, on est une équipe que des gens que j'apprécie, avec qui j'avais bossé à l'époque en freelance ou qui nous ont déclaré leur amour. On a des CV personnalisés un peu cool qui nous arrivent, donc on les recrute souvent comme ça, les gens. Et bah, ça se passe bien, on est 8, on bosse effectivement, la grande majorité de notre travail c'est du community management, donc c'est publié sur TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, du contenu pour un peu tous les domaines d'activité, ça peut être les transports, ça peut être, remarque connue, on a Saint-Michel, donc les galettes Saint-Michel, ce genre de choses là, donc on a un petit peu on est dans tous les domaines, y compris B2B. Et donc notre métier principal c'est le community management, et des trucs qui se rajoutent énormément autour de ça c'est la formation, parce que j'adore former les gens, je trouve que c'est trop marrant. Et alors même si on en fait en visio, je préfère les formations en présentiel. Donc je sais que c'est un grand débat que j'ai avec d'autres créateurs de contenu LinkedIn comme Valentine Soda, etc., qui disent, mais pourquoi Antoine, tu fais pas une formation en ligne? Ça gagnerait trop. Je m'en fous, il y en a plein des formations LinkedIn en ligne. Je veux pas faire ça. Moi, je veux rigoler avec les gens en face. Et donc, on est en train de bosser plutôt des trucs autour du présentiel. Ça m'amuse vachement plus. Donc je sais que ça rémunère pas autant, mais je marche plus au kiff. Et puis on fait aussi beaucoup de campagnes publicitaires et du ghostwriting, pardon, sur LinkedIn. C'est ça nos différentes activités.
Donc le ghostwriting, c'est je crée des posts à la place d'eux.
C'est ça. C'est le community management, c'est que je crée des posts pour une entreprise, et du ghostwriting, c'est que je crée des posts pour toi, Eric, par exemple. Les gens pensent que c'est Eric qui poste, et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé à sa place.
Comment tu arrives à gérer toutes ces activités? Aujourd'hui, il y a un terme qui sort, qui est assez souvent utilisé, c'est le terme slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de plusieurs activités différentes parce que ça lui nourrit le cerveau, parce qu'il aime bien comme ça avoir plusieurs points d'attraction. Toi, t'es un peu comme ça. Tu pourrais pas ne faire que la SMF ou que Perfect Post ou que les apéros CM. T'as besoin un peu d'avoir ces champs différents, même si ça reste autour du community management, de LinkedIn et des réseaux sociaux. T'as quand même besoin, toi, de ces inputs qui viennent d'un petit peu d'endroits différents?
Je pense pas parce que j'aurais tout pu mettre dans la SMF. Tu vois, j'aurais pu faire que des activités fun dans la SMF. Mais non, je pense que c'est une opportunité. Perfect Post, c'est vraiment, c'est né d'une opportunité. On s'est dit, bon, on va la saisir, on va faire les cons, on va tester, voir ce que ça donne. Et l'apéro CM, ça, pour le coup, ouais, c'est un peu différent. C'est que j'ai besoin de contact humain, j'ai besoin de sociabilisation. Et l'apéro CM est né il y a longtemps. Hein. Je crois que ça fait, je crois qu'on fait ça depuis 2018, Antoine. Mais il a vraiment explosé après le Covid. Je pense que comme tout le monde, j'ai eu un peu marre d'être seul chez moi et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de rencontrer du monde. Puis entre-temps, j'ai créé une communauté sur LinkedIn. Donc c'est comme ça qu'est né Zapier CM. Je pense que c'est né plus d'une frustration. Et par exemple, un truc qui m'avait vachement frustré, c'est que j'ai fait beaucoup de clubs de business, tu sais, BNI et ce genre de choses-là. Et ça ne me correspondait pas. Je trouvais que c'était trop sérieux, que c'était trop pro, qu'il y avait trop de... Tiens, on y va, on sait pourquoi on y va. Les gens, ils y vont pas pour être amis, ils y vont pour faire du business. Et moi, ça m'allait pas, c'était trop sérieux pour moi. Donc je voulais un truc où juste on va boire des coups, on rencontre, on discute, et il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais on s'est déjà fait avoir où on va à un networking et on se retrouve à écouter 30 minutes de présentation d'une entreprise qui nous vend quelque chose, dont on se fout complètement, et après on a le droit de toucher au buffet. Et moi, ça me saoule. Ma partie préférée, c'est la partie où on discute avec les gens. Donc je me suis dit, on retire tout le reste, on fait ça dans un bar, comme ça, il n'y a rien organisé, et juste on donne rendez-vous aux gens dans un bar. C'est né comme ça, en fait. Je voulais un truc facile à organiser, où il y avait une petite goutte de chaos dans LinkedIn, tu vois, un truc où il n'y a pas de business derrière. Le but, c'est pas venir avec les cartes de visite, c'est juste discuter et devenir pote avec d'autres freelances ou d'autres personnes qui ont la même activité.
J'ai testé à Nantes, big up à Valentine et Dimitri, que tu connais sûrement très bien. Et c'est super sympa. Et tu as raison, c'est pas du tout business. Alors oui, il y en a un peu parce qu'on parle de ce qu'on fait, mais c'est pas le but, c'est de passer un bon moment, de discuter, etc., etc. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la formation en présentiel où tu as besoin de contact humain, tu as besoin de choses comme ça. Est-ce que toi aussi, si on parle de contact humain, de kiff, quelle relation tu as avec le sport, par exemple, puisque c'est un peu le concept du podcast, l'entrepreneuriat et le sport. C'est quoi ta relation avec le sport? C'est quelque chose que tu aimes, que tu pratiques? Tu peux nous en dire quoi?
Oui, bien sûr. J'ai toujours beaucoup aimé le sport. J'en ai fait quasiment toute ma vie. J'ai eu un creux un peu plus tôt que j'en ai pas fait, qu'on pourra évoquer si tu veux juste après. Mais sinon, ouais, j'adore. Je ne peux pas faire une semaine sans faire de sport. Actuellement, c'est pas possible. Il y a un truc tout con déjà, c'est que je me suis mis beaucoup à la course. Ça fait un an à peu près que je cours très régulièrement, entre 2 et 3 fois par semaine. Parce qu'avec un pote, on s'est dit, viens, on va. En fait, je marche que en défi comme ça, et on s'est dit, viens, on va courir 20 km. Et je me suis dit, donc on s'est mis, voilà, en septembre, on court 20 km. Et on s'est dit, ouais, mais on n'a jamais couru, comment on s'y met? Donc tu vois, l'idée, c'est qu'on a commencé à courir suffisamment pour pouvoir faire les 20 km. Et j'ai trouvé ça, au début, extrêmement chiant comme sport. Et après, très vite, au bout d'un mois et demi à courir tous les jours, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant. Et en fait, c'est agréable. Moi, j'ai toujours été dans les sports compétitifs, en solo. Et faire un sport où t'es pas contre quelqu'un, ça m'a fait très bizarre au démarrage. Et en fait, j'ai trouvé toute une nouvelle dimension au sport que je connaissais pas, qui était plutôt l'amélioration de la machine humaine. Tu sais, comprendre comment fonctionne ton rythme cardiaque, comment l'améliorer, ta respiration, etc. Que j'avais jamais pensé dans mes précédents sports. Et j'ai trouvé ça très très marrant. Sans parler que moi, ça me permet d'écouter de la musique ou d'avoir des temps pour moi. Parce qu'à côté d'avoir deux boîtes, j'ai une femme et un enfant aussi. Donc c'est-à-dire que j'ai des journées un peu chargées et je suis rarement seul. Et ce sport-là me permet d'être seul de temps en temps et j'avoue que c'est très chouette. Et avant ça, j'ai été beaucoup moi, dans les sports de raquettes. J'ai fait énormément de tennis, j'ai fait un peu de ping-pong, j'ai fait un peu de padel et surtout beaucoup de badminton.
Et compétition, tu disais, tu as cet esprit compétition.
Ouais, alors je me suis fait rétamer en compétition au tennis par des plus jeunes que moi. Donc je me suis dit, c'est mort, je n'en fais plus, ça fait trop mal à l'ego. Et le bad, ouais, c'était des compétitions, mais c'était de l'interclub, etc. Et c'était très très chouette, j'ai adoré ce sport. Et j'ai arrêté parce que je me suis fait, je crois que ça s'appelle un tennis elbow, enfin une tendinite. Donc je suis allé voir le kiné, mais quoi qu'il arrive, j'ai mal maintenant au bras dès que je joue.
Et qu'est-ce que tu aimais dans ces sports? C'était le dépassement de soi. Tu parlais des interclubs, c'était le fait d'être une équipe qui allait justement essayer de battre l'autre, partager avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui te plaisait? Tu as parlé de la course à pied où là, tu as appris à développer ta machine humaine. Mais dans les sports de raquette, qu'est-ce qui te faisait kiffer?
Alors déjà, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est vraiment beau les sports de raquettes. Et je trouve que tu peux faire des moves que moi j'aime bien, genre au badminton, quand tu fais des amortis ou quand tu fais des lobes et tout, c'est des trucs que je trouve super canon et très agréable à faire. Donc moi, il y a un vrai côté, c'est marrant, c'est une activité fun. Toi, tu finis éclaté après 2 heures ou 3 heures de bad, t'es vraiment en sueur, mais t'as pas l'impression d'avoir fait un sport dur comme j'ai pu le faire avec la course ou l'escalade, tu vois. C'est plus c'est marrant et moi j'aime bien ce côté-là. Et après je pense que j'ai besoin de battre d'autres personnes et il y a un vrai côté compétitif où tu fais des matchs et tu l'éclates et tu te moques de lui. Je suis assez mauvais perdant et assez mauvais gagnant dans ces sports-là et c'est très rigolo d'en jouer. Donc c'est surtout ça je crois qui me plaisait vraiment énormément.
Et aujourd'hui tes défis c'est quoi? Donc le 20 km en course à pied tu l'as fait déjà ou c'est en septembre de cette année?
Non, c'était en septembre de l'année dernière, et du coup, ouais, je me suis entraîné entre mai et septembre tous les jours, et j'ai réussi à les faire en 2h13. Et donc moi, j'étais trop fier de moi, parce que c'était de loin mon meilleur temps, et après, quand j'ai regardé, je crois qu'il y avait 2500 coureurs sur la course, j'étais 2350e ou 2400e, et ça te revient un petit coup, ça te redescend sur terre, mec, t'es vraiment rincé. Donc là, maintenant, j'ai continué, je vais refaire les 20 km là, bientôt, et mon but, c'est de passer sous les 1h50. Donc j'ai pas mal progressé. Et c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, maintenant, j'ai une montre connectée qui me donne mon rythme cardiaque, etc. Je m'intéressais à des trucs qui, avant, me passaient complètement par-dessus la tête. Au bad, je m'en foutais. Mais au bad, moi, mon but, c'était d'arriver à faire des coups un peu meilleurs. Donc je m'entraîne à faire tout le temps le même coup pour que ça fonctionne. Là, non, c'est là, j'apprends mon rythme cardiaque à le contrôler, à maîtriser ma respiration. Enfin, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même réflexion sportive, je trouve.
Alors, le défi de la course, donc c'est moins d'une heure cinquante. Tu as d'autres défis sportifs en ce moment que tu as mis en place?
Oui, je manquais d'un projet fun. Je voulais un projet qui soit rapide et qui avec une finalité indiscutable et complètement inutile. Ça me tenait au cœur que ce soit inutile. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à faire un backflip, un salto arrière. Je ne sais pas du tout en faire. Et un de nos clients, c'est une salle d'escalade et de parcours. Donc, je les connais bien, je leur dis, vous ne pourriez pas m'apprendre à me donner des cours de backflip pour faire ça? Il me fait, alors toi, on n'a pas de cours de backflip, mais si tu veux en prendre un prof particulier, on va faire 3-4 sessions pour t'apprendre à faire des backflips sans te briser la nuque. Donc, j'ai commencé, j'ai pris 2 cours où effectivement, maintenant, j'arrive à faire des saltos arrière un peu de hauteur en tombant sur un tapis tout mou. Et le but maintenant, c'est de diminuer la hauteur et au fur et à mesure, arriver sur un truc de moins en moins mou. Mais voilà, mais la première fois que je l'ai fait, je me suis fait mal au cou parce que bizarrement, tu vois, tu tombes pas mal sur la tronche, etc., sur des backflips. Mais c'est un truc mou, hein, donc c'est pas blessant, mais ça te fait des gros torticolis. Et vu que j'avais des courses qui arrivaient, j'ai fait une pause en me disant, ok, bah, je finis ma course et je me blesse après. Donc là, maintenant que j'ai fini mes courses, je vais reprendre mes cours de backflip. Là.
Et le but, c'est quoi? C'est un jour, tu arrives dans les locaux de la SMF et tu fais un backflip devant tout le monde sans qu'ils sachent que tu sais faire ça.
Oui, je rêve que t'arrives à un événement qui n'a rien à voir et dans un contexte qui est complètement opportun, tu fasses un backflip juste comme ça pour plaisir. Alors pas pour des bières, etc. Hein, parce que vraiment les profs ont dit non, un backflip bourré, Antoine, c'est non, ça se fait pas. Mais en fait, c'est le fait de savoir faire ça. Je trouve que c'est marrant de savoir faire un backflip. C'est pas normal de savoir faire un backflip. C'est-à-dire que tu l'as bossé et je trouve ça marrant. Tu vois, c'est comme t'arrives en soirée et quelqu'un te dit « Oh, tu ne fais pas un petit rap ?» Tu vois, non, les gars, je sais pas rapper. Bon, allez, j'en tente un. » Et en fait, t'as bossé un rap de ouf, tu vois, pendant 6 mois. Et tout le monde fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je trouve ça hyper marrant de mettre beaucoup trop d'efforts dans un truc qui n'a absolument aucun intérêt.
Eh ben, écoute, on attend la vidéo, du coup, de ton backflip devant tout le monde quand personne s'y attendra. Si on parle de tes sports de raquettes, est-ce que quand tu étais plus jeune ou quand tu avais cet esprit un peu plus compétition, tout ça, est-ce que tu as eu des sportifs ou des sportifs que tu as admirés, à qui tu voulais ressembler ou que tu trouvais sympa ou bon, à la fois sur ou en dehors des terrains?
Ouais, et d'ailleurs ça a changé. Au début, j'étais très fan de Roland Garros, de tennis, etc. J'en ai fait pendant 8 ans. Et j'étais très fan de Roger Federer. Parce que bah, je pense, comme quasiment tous ceux qui font du tennis à cette époque-là, c'est que je trouve que par rapport aux autres, il a une espèce de retenue, une classe que je trouvais hyper intéressante. Il était toujours très courtois, très sympa, tu sentais qu'il aimait le bon jeu. Enfin, c'était canon, il était agréable à voir jouer, il écrasait en plus tout le monde, mais toujours en mettant des formes. Donc j'adorais ce gars-là. Et il y a Rafael Nadal qui est arrivé. Je sais pas si tu te rappelles du premier match entre les deux à Roland-Garros. Mais globalement, il s'est fait éclater. Federer, il s'est fait éclater par un petit jeune qui était son premier tournoi. Et j'ai détesté Nadal à ce moment-là. Je me suis dit, mais qui est ce mec qui vient de faire tomber mon élu, qui était vraiment qui battait tout le monde. Donc je me souviens d'avoir mal vécu ce moment-là. Et au fur et à mesure, c'est devenu Nadal que j'ai trouvé extrêmement classe, extrêmement bon joueur, et très très agréable et très beau à voir jouer aussi. Donc c'était au début Federer, au fur et à mesure, je me suis tourné vers Nadal, qui je trouve il avait une espèce de puissance d'énergie que tu retrouves nulle part ailleurs, et c'était le seul gars qui arrivait à remonter, mais juste à la détermination, quoi. Tu sens que le gars ne craque pas, et au contraire, la pression, lui, il s'en bat les reins. Et pareil, lui, en termes de fair play, etc., je trouve qu'il était hyper impressionnant. Je peux te rappeler, mais quand il avait un coup qu'il avait l'impression d'avoir mis dehors, il demandait à l'arbitre d'aller vérifier s'il a bien mis dehors, etc. Enfin, vraiment, il était là pour le beau jeu. Vu que je suis très fan aussi de manga, etc., enfin, en tout cas, j'étais très fan à cette époque-là. Il avait un peu cet esprit, tu vois, dans le manga où vraiment je suis là pour la dignité, j'y vais avec l'honneur, et je trouvais ça passionnant.
Ce qui faisait un peu la force de cette rivalité, c'est justement le contraste entre un Federer qui était classe à voir jouer, qui était polissé, et un peu la bestialité que dégageait Nadal.
Mais c'est ça. Et en plus, qui est arrivé dans un contexte où Federer avait déjà tout gagné. C'était le leader né, il avait de l'expérience à revendre, et c'était vraiment le combat entre celui qui a l'expérience et le petit jeune qui est l'outsider. C'était génial.
Ils ont eu une grosse rivalité sur le terrain, mais aussi une belle amitié. Et quand je me souviens, moi, de l'image quand Federer fait son dernier match à la Rod Laver Cup, et qu'il y a à côté de lui sur le banc Nadal qui lui tient la main et qui a les larmes et tout ça, ça montre que même s'ils ont bataillé pendant des années pour les plus grands tournois mondiaux, bah, il y avait autre chose que ça entre deux, quoi.
Exactement, ça crée quelque chose, ça crée une... J'ai l'impression que c'est une dualité qu'on retrouvera jamais dans quoi que ce soit. C'est rare de voir quelque chose d'aussi fort que ça, où ils sont affrontés toute leur vie. Quand il y en a un qui arrête, l'autre sait que les matchs n'auront plus la même saveur, il sait que ce sera plus pareil. On retrouvera pas ça. Et qu'est-ce que c'était beau à voir. Encore une fois, j'ai adoré ce qu'a fait Nadal. L'esprit du sportif, c'est plutôt ne pas montrer que tu as des émotions, etc. Lui, il a été, je chiale parce que mon pote s'arrête et que c'est mon adversaire. C'est le Joker du Batman, tu vois. C'est presque sans Federer, Nadal a moins d'intérêt. Donc c'est génial à voir.
Et c'est ce que tu recherches, toi, aujourd'hui aussi, au sein de ton agence, de la SMF, de retrouver ça. Tu parlais tout à l'heure de ton envie de ne pas faire des formations en ligne parce que tu as envie d'avoir ce contact humain. Tu parles souvent de les apéros CM. En tant que manager, en tant que fondateur de la SMF, toi, tu cherches à avoir ça au sein de ton équipe, au sein de tes 8 personnes ?
Alors, je ne cherche pas à avoir de la dualité. Mais je pense que j'aime pas travailler seul, je pense que c'est principalement ça. Et donc j'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie. Je suis pas très bon manager, donc je sais pas si je suis un bon exemple, etc. Parce que je suis très ami avec les personnes qui travaillent avec moi ou qui travaillent pour moi. Et donc je ne suis que le bon flic, j'arrive jamais à faire le méchant flic, etc. C'est mon autre associé qui s'en occupe. Donc je suis pas un super manager, je le sais très bien. Mais ouais, Je trouve que quand les gens travaillent ensemble, ils se créent une synergie, ils se créent quelque chose qui est très très fort. Et quand les gens ont tous une expertise différente, ont une énergie différente, etc., ça crée des choses que je ne trouve pas quand je suis freelance. Donc j'adore le fait de travailler en équipe, et j'adore surtout voir les collègues collaborer. Je trouve que c'est beau quand il y a un projet qui... Là, en ce moment, on a un projet qui fait bouger tout le monde ensemble, et c'est magnifique, on sort des trucs qu'on serait incapable de sortir seul. Et chacun a sa force. On a un illustrateur qui fait des images absolument magnifiques. On en a qui ont des idées de texte, etc., qui vont impacter vachement fort. Il y a des créatifs dans tous les sens qui ont tous des styles de création différents. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Je pense que c'est un peu comme les sports co, mais j'ai aucune expérience de sport collectif. Donc je sais pas si c'est un peu la même chose, mais j'ai l'impression que c'est un peu mon sport co.
C'est marrant que tu dises que t'es un mauvais manager, parce qu'en fait, t'es dans ce que tu me racontes, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes deux à manager la SMF, et puis chacun a son rôle. Alors, toi, t'es le bon flic, peut-être oui. Un peu plus le mauvais, même si je pense pas qu'il soit que mauvais dans le sens attitude. Mais c'est aussi ça qui fait la force de ton agence, c'est d'avoir trouvé des compétences complémentaires à celles que tu peux avoir. Et c'est ça qui fait avancer. Si tout le monde est pareil, ben, il y a un moment, il y a peut-être de l'immobilisme. Et c'est arriver à comprendre qu'on est tous un peu différents qui peut faire que ça avance, non? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je viens de te dire?
Bah, ça m'inspire que je pense que l'une de mes vraies qualités, c'est de savoir m'entourer. Et je pense que ça se traduit justement par mon agence. C'est que mon associé, c'est l'exact opposé de moi. Je suis un mec pas du tout organisé, qui fonctionne uniquement à l'impulsion. et à la créativité. Et lui, c'est un mec ultra structuré qui aime voir des plans sur le long terme et qui sait organiser ce que j'ai dans la tête. Et que ce soit sur Perfect Post ou sur la SMF, c'est pas les mêmes associés, mais c'est un peu le même profil. Et dans l'équipe, c'est pareil. On a trouvé des profils qui tous vont bien ensemble. C'est pour ça qu'on appelle Social Media Family. C'est pas comme toutes les startups qui disent on est une famille, etc. C'est qu'en fait, on a chacun des profils qui sont très différents et on fonctionne un peu comme une famille. Chacun a son truc. On va voir la personne qui a ce truc-là, etc. Et ça fonctionne comme ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le côté manager, c'est que quand tu regardes des contenus ou quand tu vois des formations sur le management, et tout le monde conseille de ne jamais être trop proche ou trop pote avec justement les collaborateurs, parce que le jour où il faut un peu taper sur la table, etc., ou taper du poing, bah, c'est compliqué. Et effectivement, pour moi, à chaque fois, c'est compliqué. Donc à chaque fois qu'il y a un souci que je dois régler, ça me fout une boule au ventre que ça ne devrait pas me mettre. Tu vois, c'est plutôt ce genre de choses-là. Mais je n'ai pas vocation à être manager, donc de toute façon, je pense que j'aime bien ce statu quo.
D'accord. Et est-ce que, justement, en parlant de manager, est-ce que pour toi, il y a des coachs sportifs qui, justement, pourraient prendre ce rôle de manager en entreprise parce que de la manière dont ils gèrent leurs athlètes, leurs footballeurs, handballeurs ou même leurs stars dans d'autres sports, eh ben, ils auraient ces qualités-là, comme tu l'as dit, à la fois d'être bienveillant, mais de savoir dire les choses quand il faut. Et ça, des qualités comme ça, il les faut en entreprise. Est-ce que pour toi, tu as des noms d'entraîneurs, de coachs sportifs qui pour toi ferait des merveilles en entreprise?
Alors, je suis persuadé que tous les coachs seraient très très bons managers, enfin tous les bons coachs en tout cas sont bons managers, mais je ne connais pas, je ne suis pas du tout assez calé en sport pour connaître les coachs. Donc je ne peux pas te dire un seul nom, à part Philippe Lucas, tu vois, c'est le seul que je connais là, comme ça, le nom qui me vient, mais je ne connais pas assez pour dire si je l'aime bien ou pas. J'ai l'impression que ce n'est pas trop les valeurs que je défends, il a l'air un peu agressif comme manager.
Il est cash, on va dire. Dans la manière dont il manage le nageur, mais il a aussi des résultats.
Ah non, mais c'est clair. Non, un truc, je suis pas très calé en manager, mais un truc que j'ai trouvé, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que quand je parle de foot avec les membres de l'équipe, qui sont tous très sport, un peu plus que moi d'ailleurs, c'est qu'ils se disent, c'est assez marrant quand on voit qu'une équipe de foot avec que des tueurs dedans, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une équipe de foot avec une espèce de cohérence entre eux, une interaction, il faut qu'il y ait un vrai esprit d'équipe qui se crée. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans les championnats du monde, où c'est le seul moment où je regarde pas mal de foot, et ben on le voit, ce truc-là. On voit qu'il y a des équipes où ça marche. Ils sont pas tous incroyables, c'est pas tous des Mbappé, mais ça marche parce qu'ensemble, ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est le taf du manager, enfin du coach à 100%. Et c'est pour ça que c'est assez chouette à voir. Et ça, c'est le côté que je trouve assez incroyable dans le sport collectif.
Ça rejoint un peu la qualité dont tu disais que tu avais, c'est que tu sais t'entourer. Et c'est exactement ça, tu sais t'entourer, donc tu sais gérer ton équipe. Didier Deschamps, quand il fait son équipe en équipe de France en 2018 ou en 2022, il prend pas forcément les meilleurs techniquement sur le papier, mais il prend un groupe qui pendant 2 mois doit vivre ensemble avec ses hauts et ses bas, ses moments forts, ses moments faibles. Et mettez-vous dans la peau, vous, demain, de partir 2 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 30 personnes ou 40 personnes. Eh ben, vous n'allez peut-être pas choisir celui qui est le meilleur, mais celui avec qui vous êtes sûr que vous n'allez pas vous taper dessus au bout de 2 semaines.
C'est clair, mais c'est hyper rassurant. C'est-à-dire qu'on privilégie, mine de rien, les relations et les qualités humaines, des fois, à la technique. Parce que c'est dans une équipe ou dans une équipe de boîte, il faut du liant entre les trucs. Et je trouve ça beau, parce que sur le papier, tu prends que les meilleurs. Tu te dis, une équipe avec que les meilleurs, ça fait la meilleure équipe. Et non. Et je trouve ça trop cool.
Et parmi les qualités qui permettent de performer, que ce soit en sport ou en entreprise, est-ce qu'il y a une qualité, toi, que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir?
Ouais, il y a un truc que j'essaie vraiment d'acquérir et que je n'ai pas du tout, c'est la discipline. C'est vraiment, j'ai un peu découvert ça avec la course. C'est que la course, si tu ne t'y mets pas régulièrement, tu ne peux pas y arriver. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire les 20 km. C'est que je me dis, ça me fait chier, je n'ai pas envie de le faire, ça a l'air compliqué. Donc si j'y arrive, je sais que ça va être une question de mental. Alors que le bad ou le padel, etc., quand je faisais des sports de raquette, j'y allais parce que j'avais envie d'y aller, parce que j'aime ce moment-là. Et ben j'aimais le fait de faire du footing alors que je n'aimais pas en faire à la base. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de me rapprocher de ça, mais ouais, je trouve qu'ils ont tous une espèce de... Ils se dédient à leur projet, ils sont... Ouais ça fonctionne vraiment, ça fonctionne comme ça, quoi. Ils font attention à tout ce qui tourne autour, ils sont concentrés sur ce truc-là. Il y a une discipline que je trouve folle. Et pareil, quand on voit toutes les routines des entrepreneurs à succès, souvent, on retrouve ce côté discipline. On retrouve une organisation avec le matin, je fais ça, je cours sur le temps, je fais ça, etc. Enfin, ils sont très structurés dans la façon de travailler. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et j'y aspire un jour peut-être.
Ou alors tu confies ça à ton associé qui lui est plus structuré, et ton côté un peu plus désorganisé peut aussi être créatif et faire naître des projets auxquels lui il n'aurait pas pensé justement parce qu'il est trop organisé, non ?
Ben c'est plutôt en vrai comme ça qu'on se retrouve, mais je sens bien que mon côté désorganisé quand même est trop désorganisé, tu vois. Je peux pas dire non, c'est comme ça, faut me prendre comme ça. Je trouve que c'est pas une excuse suffisante, donc il faut que j'arrive. Par exemple, pendant longtemps je travaillais sans to-do list, et c'est cool quand t'es freelance, c'est cool quand t'es 2-3 personnes dans l'équipe. Là on est 8, il faut que je me structure, il faut que j'arrive à faire cette to-do list et à la suivre tout le temps, etc. Donc j'essaye de travailler sur cette discipline, mais effectivement, comme tu dis, pour l'instant, je suis plutôt à essayer de travailler sur mes qualités, pas toucher à mes défauts, et pareil, et voir ça avec le collaborateur.
Et dans cette to-do list que tu essayes de tenir à jour, qu'est-ce qu'il y a qui arrive pour Perfect Post ou Social Media Family dans les semaines et les mois qui viennent ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler en termes de nouveautés, de développement ?
Oui, bien sûr. Perfect Post, il y a deux trucs sur lesquels on va travailler énormément. Le premier, c'est le design. On sait que notre point faible, c'est le design de l'outil. Pour une raison toute bête, hein, c'est que Jérôme, il est dev. Moi, je suis dans le marketing. On n'a pas cette brique design qui nous manque. Donc, on va l'acquérir, on va améliorer l'outil. Donc ça, c'est un des trucs qui arrive. Et l'autre énorme chose qu'on travaille sur Perfect Post, c'est la version équipe. Parce que c'est un truc tout con, mais en fait, je suis persuadé qu'il n'existe pas de bonne solution d'employé de VKC. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, c'est les collaborateurs qui communiquent pour une entreprise. Donc, il n'existe pas de solution qui aide les collaborateurs d'une entreprise à communiquer pour une entreprise. Il y a des solutions, mais toutes les solutions, c'est un site externe. Et donc, c'est demander à un collaborateur d'aller sur un autre site, copier-coller le texte, l'envoyer sur LinkedIn. Enfin, ça les fait chier plus qu'autre chose. Personne ne veut se rajouter un outil. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, Perfect Post, on a un truc assez incroyable où il n'y a pas d'autre outil. Tout est dans LinkedIn directement intégré, etc. Et il y a moyen de faire un truc. Un outil incroyable. Et on est en train de développer techniquement cet outil. On va rajouter la brique design juste après. Et on va faire un outil, je pense, qui peut changer la face de la communication sur LinkedIn d'entreprise.
Ça, c'est prévu pour quand, tout ça?
C'est prévu pour 2024, c'est sûr. On espère le deuxième trimestre 2024.
Ah, très vite, alors, très vite. Et côté SMF?
Côté SMF, en ce moment, comme tu dis, je marche par passion et par trucs qui me drive. Et en ce moment, il y a deux trucs qui me drive beaucoup, c'est des conférences. J'ai envie de refaire des conférences et de proposer des trucs derrière sur LinkedIn. Donc tu connais, toi, les conférences. Bah, j'aime bien cet exercice, je trouve qu'il est assez marrant. Et l'autre truc, c'est TikTok. TikTok, c'est quelque chose que les clients nous demandent de plus en plus. Et on essaye de développer une formule qui permet à des petites boîtes d'aller sur TikTok sans que ça coûte trop cher. Parce que le problème, c'est que vu que c'est de la vidéo et que ça demande beaucoup de vidéos, c'est-à-dire 2 à 3 par semaine, c'est compliqué de trouver le contenu suffisant, et c'est de la vidéo, ça coûte beaucoup plus cher que faire un contenu texte. Donc je suis en train de travailler sur une formule, et c'est pour ça justement que je m'intéresse aux zoos et ce genre de choses. C'est que je pense que c'est une formule qui marcherait bien avec ce type de client-là. Donc là, je suis en train de... Je bosse dessus à fond, je vais faire un test dans un aquarium là, la semaine prochaine, et après je vais commencer à proposer ça à plein de gens.
On va suivre tout ce que tu développes dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je mettrai bien entendu tous les liens à la fois vers ton profil LinkedIn, Perfect Post, la Social Media Family et les apéros CM, si jamais vous avez envie. Maintenant, c'est dans plein de villes. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a au moins une quinzaine, hein, je crois.
Ouais, c'est entre 15 et 20. C'est tous les 2 mois. Et c'est un événement complètement gratuit. Vous pouvez y aller. Ce n'est pas réservé aux community managers. C'est ouvert absolument à tout le monde. Et l'idée, c'est juste de boire des coups et de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui travaillent, on va dire, dans la com, dans le marketing, dans le RH, dans le commerce, etc. Et c'est gratuit, le site c'est apéro.cm.
Voilà, je vous encourage vraiment à aller faire un apéro CM un soir. Allez-y au moins un soir, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, mais je suis certain que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, ça a été mon cas à Nantes. Et puis peut-être qu'un jour, je viendrai chez toi à Tours faire un apéro CM, pourquoi pas, ça me ferait plaisir.
Mais oui, c'est les meilleurs à Tours en plus. À Tours, pour donner une idée, on est entre 60 et 80 maintenant, tous les 2 mois.
Eh bien, écoute, en tout cas, Antoine, merci pour cet échange, merci pour toute cette passion que tu véhicules et toutes ces informations que tu nous donnes. Je vous encourage vraiment à aller voir ce que fait Antoine, parce que si vous êtes sur LinkedIn et que vous voulez être meilleur, il y a de très bons conseils. Perfect Post, l'application, elle est gratuite dans une première version et ça permet déjà de faire de belles choses. Merci Antoine.
Avec plaisir.
Et puis bien sûr, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport.